franceinter.fr.
Bonjour, c'est Caroline Eliachef, la pédopsychiatre et psychanalyste, qui est l'invitée de Vous avez dit classique aujourd'hui. Médecin donc, fille de la très célèbre journaliste Françoise Giroud et du producteur de cinéma Anatole Eliachef, Caroline Eliachef baigne dans le monde de la culture depuis la tendre enfance. Passionnée de danse et de cinéma, quelle place occupe donc la musique classique dans sa vie? Musique et psychanalyse peuvent faire bon ménage, du moins, comme nous le disions la semaine dernière avec le neurologue Pierre Lemarquis, la musique peut avoir une incidence positive sur le cerveau et l'émotionnel. Alors en utilise-t-elle pour éclairer des états? De Chopin à Donizetti, cette émission aura une couleur psychanalytique avec Mahler, aussi Mozart, Liszt et Bach. Bonjour Caroline Eliachef.
Bonjour.
Bienvenue. Comme vous avez toujours été danseuse, je crois, Caroline Eliachef.
J'aurais aimé être danseuse.
En tout cas, vous l'avez toujours pratiqué.
J'ai toujours pratiqué.
Vous ne vous sentiez pas assez forte pour faire le métier de danseuse?
Non, pas du tout assez forte, pas assez douée surtout. Et puis ma mère a eu ce mot qui m'a définitivement dégoûtée. Elle m'a dit, si tu veux être danseuse, il faut que tu sois la meilleure. Et j'ai vu assez rapidement que ne pouvant pas être la meilleure, il valait mieux que je choisisse une autre voie.
Alors on va quand même écouter ce Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Vous savez, le plus populaire des ballets classiques. Hein. Alors ça se passe en Allemagne, dans un château qui célèbre les 21 ans du prince Siegfried, qui est devenu majeur, à qui on va proposer des femmes. Mais bon, pour l'instant, l'ambiance est à son comble avec cette valse qui emmène et donne envie de danser. Une valse à trois temps, c'est pas mal non plus. Vous en avez pratiqué, vous?
La valse à trois temps, oui. Et surtout, Tchaïkovski était un compositeur que ma mère écoutait beaucoup.
Ah, c'est vrai. Donc c'est bien pour commencer.
Pas mal.
Bon, bah très bien, on continue alors. La valse du lac des cygnes de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Et Caroline Eliachev, vous qui êtes mon invitée, vous me disiez hors micro que c'était donc la musique que votre mère écoutait. On le disait tout à l'heure, elle écoutait beaucoup la musique slave en fait.
Oui, absolument.
C'était essentiellement ce qu'elle mettait à la maison, vous savez pourquoi ?
Aucune idée.
Non.
Aucune idée.
Et vous, alors du coup, c'est une musique qui vous a plu ?
C'est une musique que j'ai écoutée. Et puis, mon frère, qui était fort critique, trouvait que c'était d'un mauvais goût parfait. Et c'est plutôt lui qui m'a initié à d'autres musiques.
Alors, est-ce qu'en danse classique, j'imagine que c'est le genre de musique qu'on devait mettre pour apprendre les pas de danse classique, Caroline Eliachev ?
Alors, dans les cours de danse classique, on écoutait une abominable pianiste qui jouait du Chopin, et je ne savais pas que c'était du Chopin. C'était ça les cours de musique classique, les cours de danse classique à l'époque. Et j'ai découvert après que en réalité c'était merveilleux et que ça pouvait être beaucoup mieux joué.
Oui, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très joliment joué. C'est un peu tapé à la baguette.
Tapé, interrompu.
Alors vous avez commencé tôt la danse classique.
Pas spécialement.
Mais vous adoriez
vers 5 ans. Oui, j'adorais ça.
Qu'est-ce qui vous plaisait dedans, Caroline Eliachev ?
J'adorais ça, j'adorais les tutus, à la fois le déguisement, les mouvements, le corps, etc. Enfin, tout me plaisait. Mais j'étais pas très douée.
Non, c'est ce que vous disiez. Vous en avez beaucoup pratiqué. J'ai vu que votre mère était quand même. Donc, votre mère, Françoise Giroux, je le rappelle pour les auditeurs, donc grande journaliste, elle adorait son métier. Et donc, elle était relativement absente. Alors, du coup, vous faisiez beaucoup d'activités, vous, pour.
Non, elle était. Oui, elle était absente comme l'étaient les hommes qui allaient travailler. Elle n'était pas plus absente que.
Mais pour l'époque, c'était quelque chose de rare.
Je vivais avec ma grand-mère qui était à la maison et qui s'occupait énormément de moi, et donc je n'ai manqué de rien.
Ah, donc il n'y avait pas de compensation par un surplus d'activité.
Pas de surplus d'activité.
Comme on peut parfois l'observer lorsque les parents travaillent beaucoup.
Non, non.
D'accord. Alors, on va poursuivre avec le nocturne numéro 1, opus 9 de Chopin, qui est donc un nocturne que vous avez choisi pour nous ramener à l'enfance. Donc, c'est un nocturne qui est adapté à la musique de salon, hein, puisque Chopin composait essentiellement pour la musique de salon. C'est là qu'il jouait. C'est un nocturne qui conjugue là son talent d'improvisateur et son goût pour une nouvelle forme de musique. C'est assez innovant. On est en 1831, probablement. Et justement, rythmiquement, il y a deux genres qui se mélangent, on dit en musique. Il y a le binaire et le ternaire. Il y a à la main gauche la musique binaire et à la main droite la musique ternaire. Et les deux se mélangent. Est-ce que c'est pour cela que vous avez choisi cette musique?
Non, c'est pas pour ça que j'ai choisi, mais j'ai fait du solfège sur le tard. Et effectivement, j'ai appris ce que c'était que le binaire et le ternaire. Et voilà, le solfège m'a passionnée.
Pourquoi ?
Parce que j'ai appris un langage. J'avais un professeur extraordinaire, je prenais des cours particuliers. Alors évidemment, il s'agit évidemment d'apprendre à lire les notes, mais c'est comme quand on apprend à lire, et puis ensuite, une fois qu'on a la lecture, on peut analyser. Et ça m'a vraiment passionnée.
Pour la psychanalyste que vous êtes,
non,
analyser...
pas du tout. C'était assez dissocié.
D'accord, mais l'analyse permet d'aller plus loin dans la compréhension de la musique.
C'est intéressant. C'est vraiment intéressant.
Alors j'invite les auditeurs à écouter ce mélange très bien interprété par Samson François qui arrive parfaitement à distinguer la main gauche de la main droite. Donc on peut écouter, si l'on le souhaite, la main droite ou la main gauche. Et si on a un cerveau suffisamment habile, écoutez les deux à la fois pour voir le mélange subtil que ça provoque. Le Nocturne en si bémol mineur, opus 9, numéro 1 de Frédéric Chopin, interprété par Samson François. Ça vous plaît comme interprétation, Caroline Eliachef?
Ah oui, je trouve qu'il est... Enfin, j'aime beaucoup Samson François, mais là, je pense qu'il donne le meilleur de lui-même.
Effectivement, ces deux mains, on a l'impression qu'elles sont complètement distinctes, et à la fois, elles communiquent.
C'est pas si facile.
C'est comme un dialogue, finalement.
Oui, non, mais il est vraiment extraordinaire.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil sur France Inter.
Caroline Eliachef, on va rester dans le talent improvisatoire, parce que Mozart aussi était un merveilleux improvisateur. Et il a écrit un peu tardivement, en 1782, une fantaisie en ré mineur, en s'inspirant de l'univers de Bach. Vous vouliez nous la faire entendre, sans doute pour cette raison-là, mais je voulais auparavant parler justement de cette enfance donc où votre mère était relativement absente. Elle écoutait de la musique slave, donc c'est votre frère qui vous a fait découvrir cette musique-là.
Oui, alors, enfin, c'est mon frère qui m'a fait découvrir la musique classique et beaucoup d'autres choses, je dois dire.
Et alors, donc il était votre aîné.
Il était mon aîné de 6 ans. Alors le problème que j'avais à l'époque, et je dois dire que j'ai quand même un peu toujours, c'est que je n'arrivais pas à reconnaître. Je n'arrivais pas à reconnaître les compositeurs. Et je dois dire que...
C'est une sacrée culture, quand même.
Voilà. Et j'y arrive pas toujours... enfin, j'y arrive un peu mieux, mais quand même pas bien. Et donc, il me donnait des sortes de leçons. Et donc, pour ces leçons, Mozart, Bach, et il me disait, écoute, tu vois bien que c'est différent, etc. Enfin, je me souviens plus exactement de ce qu'il me disait, mais ce que je me souviens, c'est que, voilà, nous écoutions ensemble de la musique pour que j'arrive à reconnaître. C'est-à-dire, il m'enseignait, en quelque sorte.
Donc, le plaisir passait d'abord par l'enseignement, on peut dire ça comme ça, Caroline Eliachef?
Ben, le plaisir, il est avec l'enseignement.
Oui.
Moi, quand j'apprends, j'ai beaucoup de plaisir.
Donc, effectivement, il avait raison de vous faire écouter cette fantaisie en ré mineur de Mozart, parce que Mozart, lui, s'était vraiment épris de l'univers baroque, Bach, Handel, et il a voulu s'en inspirer. Alors, c'est une fantaisie qui alterne en plus douleur et tendresse. On est vraiment dans cette capacité qu'avait Mozart de mélanger deux sentiments relativement contradictoires. On est dans l'interrogation et la vivacité. C'est interprété en plus par Anne Kefelek, qui fait ça merveilleusement bien. Effectivement, on a l'impression que c'est la rencontre de Bach et de Mozart. Bach n'est vraiment pas loin dans cette fantaisie en ré mineur. C'était cet extrait de la fantaisie en ré mineur de Wolfgang Amadeus Mozart, interprété par Anne Kefelek, et qui nous faisait entendre cette capacité qu'avait Mozart à la fois de nous faire entendre sa musique à lui, en laissant l'empreinte de compositeurs qui l'avaient inspiré, qui l'inspiraient, comme Jean-Sébastien Bach, Caroline Eliashev. Quand votre frère vous a fait entendre la différence, enfin, pour reconnaître quelle était donc la signature de Mozart, ça a été probant.
Plus ou moins. Plus ou moins, mais peut-être plutôt plus que moins.
Là,
quand même.
Par exemple, en l'écoutant, la fantaisie, vous êtes capable de vous dire oui, bien sûr, c'est Mozart, oui. Parce que cette façon de, voilà. D'écrire, c'est...
Mais en revanche, je n'aurais pas pu dire qu'il s'était inspiré, enfin, qu'il y avait un lien avec Bach. Là, je découvre en vous écoutant, donc ça m'intéresse au plus haut point.
Alors, on va écouter l'art de la fugue, parce que vous proposiez l'art de la fugue, et je me suis dit, au fond, Caroline Eliashev a raison, puisque l'art de la fugue, c'est l'art de composer en superposant des dessins mélodiques. Un Bach, en fait, était pas loin de la mort quand il a composé l'art de la fugue. Il a 65 ans et il se dit, je vais essayer d'exploiter au maximum un seul sujet simple, hein, dans différents types d'écriture. Alors, ça va être fugué ou canonné. Et effectivement, c'est assez impressionnant de se dire qu'à partir d'un tout petit morceau, il va exploiter au maximum cette figure musicale. On va l'écouter interprété par Glenn Gould. Alors c'est un live, c'est complètement ancien, ça crépite, il y a des tous et c'est très joli. Voici le contrepoint numéro 1 de Jean-Sébastien Bach.
On
parle de votre frère Caroline Eliashev, parce que je vous demandais à quel âge il vous a fait découvrir tout ça. Finalement, vous étiez toute jeune, toute petite.
Oui, je dirais entre 8 et 10 ans, quelque chose comme ça.
Et là, par exemple, en écoutant l'art de la fugue, ça doit vous ramener très très jeune.
Oui, oui, oui. Et ça me fait penser, parce que je l'écoutais là pendant que ça passait, ça me faisait penser à quelque chose, à une expérience qui a eu lieu, qui est récente, qui est que quand... on fait écouter à quelqu'un quelque chose qu'il connaît par cœur et qu'on arrête la musique et qu'on capte ce qui se passe dans son cerveau. En réalité, le cerveau continue comme s'il écoutait la musique.
Alors, est-ce que c'est pour ça que parfois ça peut être très difficile de revenir à la réalité quand on écoute une musique, on l'observe souvent à ce micro?
Écoutez, c'est peut-être pour ça. En tout cas, j'ai trouvé cette expérience absolument passionnante, parce que quand une personne ne connaît pas le morceau de musique et qu'on l'arrête, voilà,
son cerveau s'arrête.
Ça s'arrête. Mais sinon, la personne, d'une certaine manière, crée la musique qu'elle a eu l'habitude d'entendre, etc. Alors, l'art de la fugue, évidemment, avec le côté répétitif, que moi j'ai écouté des centaines de fois, je pense que si la musique s'arrêtait, mon cerveau continuerait.
Alors, on va pas faire l'expérience, ça serait un grand blanc à l'antenne de France Inter. Mais en tout cas, cet art de la fugue que votre frère vous a fait découvrir quand vous aviez 8-9 ans.
Oui, pas par Glenn Gould, parce qu'à l'époque, il n'avait pas...
Des enregistrements n'existaient pas encore, puisque vous étiez toute jeune à ce moment-là, donc lui, oui, commençait à peine. Est-ce que l'art de la fugue, le sens justement que ça a, cette façon de répéter, de revenir sur une même image en tant que psychanalyste, parce qu'on va...
On va y venir.
On va y venir, oui, bien sûr.
Écoutez, moi, j'ai plutôt tendance à séparer les activités. Et donc, j'ai écouté Bach de façon totalement répétitive, en faisant mes études, etc., etc., mais je n'en ai jamais fait la jonction avec la psychanalyse. psychanalyse, en tout cas pas avec ça. J'ai fait la jonction avec la psychanalyse beaucoup plus tard, avec l'opéra et les scènes de folie, où là, tout d'un coup, je me suis mise à travailler pour essayer de comprendre pourquoi ça me plaisait.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Les scènes de folie, disiez-vous, Caroline Eliashev. Avant cela, on va parler des Kindertottenlieder de Mahler et de cette vocation qui a été la vôtre de devenir psychanalyste, de faire médecine. Vous avez quitté le foyer assez jeune, je crois, à 14 ans.
Très jeune.
À quel moment avez-vous décidé de devenir médecin ?
Avant. Oui, oui. Non, j'ai toujours voulu, enfin, aussi loin que je me souvienne, disons vers 12 ans, on va dire ça comme ça, je voulais être médecin, mais je ne voulais pas être médecin, je voulais être psychanalyste.
Psychanalyste, précisément, vous saviez ce que c'était, vous saviez pourquoi ?
Je savais pas très bien ce que c'était, mais je savais quand même pas mal, toujours grâce à mon frère, qui lui-même était en analyse, qui faisait médecine pour devenir psychanalyste, donc voilà. Ma mère connaissait des psychanalystes, alors j'ai pas lu Freud à 12 ans, mais voilà, je savais que c'était ça que je voulais faire. Bon, si vous voulez, en reconstruisant peut-être un peu l'histoire, je pense que je voyais que en allant vers la psychanalyse, j'arriverais à comprendre un petit peu quelque chose de ma famille. Il y avait cette idée-là quand même.
Et que vous avez comprise cette chose vite ou il faut du temps ?
Non, alors il faut du temps et surtout, on peut comprendre et ne pas avoir envie d'exercer ce métier parce que c'est quand même deux choses différentes. Mais j'ai adoré d'abord mes études de médecine et j'adore ce métier de psychanalyste. J'y ai vraiment un plaisir et voilà, qui n'a pas cessé. Donc mon intérêt pour moi s'est légèrement dissipé, mais mon intérêt pour les autres, non.
Alors, pour les autres, on va aller du côté de Mahler, qui lui a été carrément allé consulter Freud,
oui,
à un moment de grande détresse psychologique dans les années 1910, avec les Kindertottenlieder. C'est assez intéressant puisque Mahler les a composés entre 1901 et 1904 d'après des poèmes de Friedrich Rückert, donc les poèmes des enfants morts. Ce poète Friedrich Rückert avait perdu ses deux enfants et avait demandé à Mahler de pouvoir lui composer des musiques d'après ses poèmes. Vous, Caroline Eliashev, dans votre vie, parce que vous avez demandé en plus une interprétation intéressante qui nous renvoie à Freud, puisque c'est Bruno Walter, le chef d'orchestre, et Kathleen Ferrier qui le chante. Bruno Walter a bien connu aussi Freud.
Oui, alors c'est pas les raisons pour lesquelles j'ai pensé à ça. D'abord, Kathleen Ferrier est une des rares chanteuses que je reconnais.
Ah oui.
Il y en a pas beaucoup.
Vous parliez du fait de reconnaître
Calas
ou pas.
Et Kathleen Ferrier. Et par ailleurs, il me semble, vous me direz si je me trompe, que Mahler a composé donc ses chants avant de perdre lui-même son propre enfant.
Absolument. Sa fille n'était pas encore née,
voilà,
quand il les a composés.
Et sa femme le lui a vivement, vivement reproché. Et par ailleurs, ça me rattache à quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui est Ginette Rimbaud, qui est une psychanalyste, avec qui j'ai travaillé pendant de très nombreuses années. Et qui, elle, s'est occupée d'enfants, qui a écrit un livre célèbre qui s'appelle « L'enfant et la mort ». Et donc, elle connaissait très bien cette musique, me l'a fait connaître. Et voilà, donc pour moi, c'est toute cette époque-là, tout ce travail avec Ginette Rimbaud, tout ce travail autour des enfants que des parents ont perdus, mais aussi autour des enfants qui vont mourir.
Donc un double écho à votre histoire et écho à l'histoire de la psychanalyse, puisque ces Kindertottenlieder s'inscrivent vraiment dans une Vienne qui est bouillonnante et dans laquelle Freud exerce et va apporter tout ce qu'on sait à la psychanalyse.
Sprühtet mir.
Nun sehe ich wohl, warum so dunkle Flammen des Kindertotenlieder de Gustav Mahler. C'est Bruno Walter qui dirige l'Orchestre Philharmonique de Vienne et qui dirige Catherine Ferrier. On est en 1954 et on entend à quel point il y a quelque chose d'incarné dans cette musique.
Oui, une raison pour laquelle je reconnais Catherine Ferrier, je ne reconnais pas tant la voix, encore que quand même je la reconnais, je ressens quelque chose sur la peau, comme si c'était la peau qui écoutait. Et Callas me fait ça aussi. Et les autres, non. Alors, je peux apprécier leur qualité vocale, etc., etc. Mais voilà, ce sont les deux seules chanteuses, peut-être que je n'ai pas écouté tout le monde, pour qui je ressens sur la peau.
Quand on dit épidermique, là, ça vous va
bien. Voilà, exactement. Et alors, vous savez que quand le fœtus se développe dans le ventre de la mère, il ressent les voix, évidemment, et tous les bruits qu'il entend, parce que c'est extrêmement sonore, par la peau. Ce sont les vibrations de la peau. En fait, l'oreille n'est pas encore développée. Je parle de cette période où l'oreille n'est pas encore développée. Donc, et où les sons sont perçus par la peau.
Donc on est dans le vibratoire pur.
Exactement. Exactement. Et on sait très bien que quand on écoute certaines musiques, pas forcément de l'opéra d'ailleurs, ça dépend des personnes, on peut avoir la chair de poule, etc., etc. Enfin, il y a des tas d'expressions qui expriment ça, qu'on entend par la peau.
Et donc, c'est votre cas avec Catherine Ferrier. Et ce qui m'a étonnée aussi, Caroline Eliashev, alors j'imagine que comme psychanalyste, vous pouvez faire des liens peut-être plus rapides par rapport à des choses comme celles que je vais évoquer à l'instant. On va écouter le concerto à la mémoire d'un ange d'Alban Berg, qui a été composé donc par Alban Berg à la suite du décès du deuxième enfant de Alma Mahler, qui était donc la première épouse de Gustav Mahler, qui a perdu donc sa première petite fille, Maria Anna, qui est décédée à l'âge de 4 ans. Elle a reproché toute sa vie à Mahler d'avoir, d'une certaine manière, anticipé la mort de sa fille, alors que bien sûr, il n'y était pour rien, comme si c'était prémonitoire. Et puis, elle a eu un deuxième enfant avec Walter Gropius, l'architecte fameux, et cet enfant, Manon, est décédé à l'âge de 18 ans. Alors, Alban Berg, qui était dans cette école un peu avant-gardiste, qui était architecturalement celle de Gropius, a voulu composer ce concerto à la mémoire d'un ange pour soulager Alma Mahler. Et vous, en aviez-vous connaissance quand vous l'avez découvert?
Alors, quand j'ai découvert, pas du tout. J'ai connu l'explication beaucoup plus tard. Moi, j'ai écouté Berg, je pense, à l'adolescence. Et voilà, c'était la découverte d'une autre musique. Alors, c'était plus Mozart, Bach et tous les classiques. Voilà, je découvrais qu'il y avait une autre musique possible. Et j'ai adoré Alban Berg et Schoenberg aussi. Schoenberg au début. Après, j'ai eu un peu plus de mal.
Découvrir qu'une autre musique était possible, voilà. Pour vous, c'était l'ouverture sur un autre monde?
Oui, sur un autre monde musical, alors sur lequel je n'avais aucune connaissance universitaire. C'était vraiment c'était le son qui m'intéressait. Et j'ai été immédiatement à la fois très sensible et je l'ai écouté, réécouté et réécouté.
Effectivement, il faut réécouter ce concerto à la mémoire d'un ange dans son prélude. Et c'est vrai que c'est une musique qui sonne différemment, mais qui apporte aussi de nouvelles portes presque sensorielles. C'est donc le concerto à la mémoire d'un ange de Alban Berg. C'est Pierre Boulez qui dirige le London Symphony Orchestra, Caroline Eliashev. Effectivement, cette musique que vous avez découverte, en fait, elle est à la radio.
Oui, à la radio. J'ai découvert beaucoup de choses à la radio. J'aime beaucoup la radio.
C'est vrai.
J'écoute la radio.
Et beaucoup de musique à la radio aussi.
Oui.
Alors, on va poursuivre, puisqu'on en est au moment où vous commencez à exercer, je pense, Caroline Eliachef, votre métier de pédopsychiatre, à la fois psychanalyste. Psychanalyste, c'est adressé à tout le monde, pédopsychiatre, donc aux enfants. Et cette œuvre de Donizetti, qui est terrible, Lucia de la mer mort, qui est un chef-d'œuvre tragique, hein, et peut-être même archétype de l'opéra romantique, où il y a une histoire d'amour trop belle, histoire d'amour qui ressemble un peu à l'histoire de Roméo et Juliette. Un amour qui est trop beau, semble-t-il, pour être vécu, trop dangereux pour ceux qui l'entourent. Alors, Lucia est complètement dépouillée sa raison d'être, elle va basculer dans une véritable folie meurtrière et on va assister à une scène de haute voltige où la voix est d'abord douce et moelleuse et puis elle semble gravir le ciel avec d'éblouissantes vocalises qui traduisent les hallucinations de l'héroïne. Ça, j'imagine que pour vous, Caroline Eliachef, pouvoir faire coller la musique au sentiment de folie, c'est quelque chose de très instructif.
Alors, je l'avais jamais... enfin, pendant très longtemps, je me disais, voilà, j'aime beaucoup l'opéra. Dans l'opéra, il y a des scènes de folie, pourquoi pas. Et puis, à un moment, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, on m'a demandé pour présenter un concert de scènes de folie à l'opéra, on m'a demandé de faire une conférence. Donc j'étais un peu surprise parce que c'était pas vraiment mon domaine de prédilection, mais je me suis dit bon, en travaillant un peu, je devrais pouvoir y arriver. Et donc j'ai travaillé sur quelques scènes de folie à l'opéra et les liens d'une part avec la psychiatrie et d'autre part avec la psychanalyse. Et évidemment, j'ai découvert des choses. Alors, c'est découvert, pour ceux qui connaissent, ils ne le découvriront pas, mais moi, je l'ai découvert. Et ça m'a énormément intéressée parce que l'opéra est né en même temps qu'est né le savoir sur la psychiatrie, c'est-à-dire 1600. Enfin, Foucault le date à 1600 et l'opéra commence en principe à 1600. Alors, y a-t-il un lien de cause à effet? Pas forcément. C'est pas parce que deux choses naissent au même moment que... Mais
ça doit sans doute résonner un peu quand même.
Peut-être. En tout cas, la folie commence à être décrite à ce moment-là et la folie va apparaître. Alors, on fait un saut. Hein, on arrive là au 19e siècle. On n'est plus au 17e. Et il y a effectivement des liens entre la psychiatrie et aussi la psychanalyse parce que ces scènes de folie, ce sont des femmes. Ce sont des femmes.
Ce qu'on appelle couramment l'hystérie aussi, c'est ça ?
Voilà. Alors, elles ont même été décrites, en particulier Lucia, avant que Freud écrive les études sur l'hystérie avec Breuer. Mais l'opéra, comme la psychanalyse, donc, s'occupe des femmes et des femmes qui souffrent. Et il y a une correspondance entre la façon dont on envisageait cette souffrance liée à une cause extérieure, ça c'est la psychiatrie qui apportait ça, hein. Il faut une cause extérieure, alors là c'est la trahison, etc.
C'est l'amour,
etc.
qui ne peut pas...
Voilà, la tension, la trahison, l'explosion de la scène de folie. Donc effectivement, il y a des liens très très forts. Alors c'est évident dans Lucia, c'est également... Alors c'est encore plus net dans La Somnambule, parce que dans Lucia, le traumatisme, entre guillemets, hein, c'est un terme qu'on employait comme ça à l'époque, venait de l'extérieur. Dans La Somnambule, c'est intérieur.
Elle est en proie. Voilà. Oui, son c'est inconscient intérieur. S'exprime.
Voilà, exactement. Et c'est la première fois, je crois, dans l'opéra, qu'il y a cette correspondance si importante entre l'intérieur et l'extérieur. Et La Somnambule, effectivement, elle est somnambule, donc c'est quand même très évocateur.
Alors là, on va écouter L'air de la folie par Maria Callas, effectivement, où on entend cette voix qui va être douce et moelleuse et qui va gravir le ciel en d'éblouissantes vocalises, peut-être pour traduire ces hallucinations de l'héroïne Lucia di Lammermoor. L'air de la folie, interprété par Maria Callas. C'est un enregistrement de 1952 par l'orchestre symphonique de la RAI. Et c'est donc un extrait de Lucia de la mer mort de Gaetano Donizetti. L'opéra, c'est un sujet donc qui est assez intéressant pour la psychanalyse. Et vous me disiez hors micro, Caroline Eliachef, que les premières patientes hystériques de Sigmund Freud étaient des cantatrices.
Oui, étaient des cantatrices qui n'arrivaient plus à chanter. L'une avait une contraction des masséters et l'autre, sa voix ne sortait plus. Et donc, voilà, il était certainement intéressé par le sujet et il s'agissait pour ces femmes de savoir pourquoi elles voulaient devenir cantatrices, ce qui n'est pas exactement le sujet de ces scènes de folie, mais c'est quand même intéressant.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Une petite prescription à la psychanalyste que vous êtes, Caroline Eliachef, pour terminer avec un compositeur donc que votre mère aimait beaucoup. J'ai pas fait exprès, hein, je ne le savais pas. Tchaïkovski, dans Les Saisons, Tchaïkovski était un compositeur assez dépressif. Il a eu des moments en tout cas difficiles. Et Ces Saisons, on dirait des pages musicales extraites d'un journal intime. Quand il écrit ces fameuses saisons, donc qui traite des 12 mois de l'année, c'est une commande. Il est assez inquiet. On est en 1875-76, il est inquiet parce que il veut cacher son homosexualité, faire taire les rumeurs comme quoi il est homosexuel, et donc il va décider de se marier. Mais évidemment, c'est pas simple pour un homosexuel. Alors dans cette œuvre qui est une commande, il va vraiment toucher du doigt à la mélancolie russe et aussi
au charme
slave, mais avec beaucoup de discrétion. On n'est pas dans quelque chose du tout de sirupeux. Et comme le mois de mai vient de commencer, on va pas écouter du Muguet. On va écouter ce mois de mai, les nuits de mai, composées par Tchaïkovski, l'extrait des saisons et interprété par Jonas Vito. C'est un disque qui est sorti récemment chez Mirare. c'est le rire de Caroline Eliachef qu'on entendait à l'instant. Ça, vous me disiez que c'était pas mal, que c'était pas si rigolo du tout. Bon, bah, très bien, c'est les saisons de Tchaïkovski. Jonas Vito au piano, c'est sorti chez Mirare. Effectivement, dans ce disque, on entend donc les saisons de Tchaïkovski en pudeur. Mmh. Et la grande sonate en sol majeur qu'il a écrite au moment d'une grande dépression. Merci à vous, Caroline Eliachef, de nous partager cette heure. Je rappelle que vous avez écrit récemment chez Albin Michel « Comment le voile est tombé sur la crèche ». Et puis, on peut vous retrouver tout le matin, 7h20 sur France Culture. Et puis,
pas tous les matins. Tous les jeudis matin.
Et j'espère qu'on on vous entendra encore nous parler de musique, puisque vous en parlez avec savoir et sensibilité, ce qui n'est pas courant. Et je voulais remercier aussi toute l'équipe, Marie-Annick Rimbaud, Camille Poux, Jalaguier, Claire Destacan. À la technique aujourd'hui, c'était Sandrine Laurent. Demain, nous recevrons le violoncelliste Christian-Pierre Lamarca. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site de franceinter.fr. Nous laissez des commentaires. Vous trouverez une photo de Caroline Eliachef sur la page Facebook de Vous avez dit classique. Et puis, dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec vous, Charline Vandenacker. Bonjour.
Bonjour, Elsa Boublil.
Et comment ça va?
Mais écoutez, fort bien. Nous avons comme invité Alexandre Arcadi.
Oui, le réalisateur, mais qui
a écrit. Aujourd'hui, c'est l'écrivain qui est avec nous.
D'accord, très bien. Je vous souhaite une très belle émission.
Merci, Elsa. Ciao.